Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revenons donc ensemble au roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur. Rouler à l'aveuglette ne préoccupait pas grand-père. Tassé sur son siège, les mains au bas du volant, une cigarette se consumant docilement au coin des lèvres, les passants n'apercevaient que son chapeau. À force, l'extrémité relevée de son sourcil avait jauni sous la nicotine. Cette blondeur insolite au milieu de l'irrépressible envahissement de la blancheur apparaissait comme un dernier brûlot de jeunesse, un repli stratégique de la vie dans cette pointe soufrée. Elle créait, avec l'autre sourcil immaculé, une asymétrie qui faisait soupçonner sur le vieux visage des traces d'hémiplégie, impression accentuée par la fixité de l'œil droit, mi-clos, piqué par la fumée, qu'il clignait de temps à autre, décentrant sa moustache en une expression chaplinesque. Il semblait si absorbé, lointain, qu'on pouvait le croire assoupi. De fait, il l'était parfois, ce qui lui valut quelques déboires, une roue au fossé, une aile arrachée. Son regard rasait la courbure supérieure du volant, se perdait dans la contemplation d'une ligne bleue imaginaire à travers des kilomètres de pensée où nous tenions évidemment peu de place. « Son jardin secret », disait grand-mère. C'était avoué qu'elle craignait en s'y aventurant de ne pas s'y retrouver. Il avait pour unique confident le portier de l'abbaye de la Mellerie, un petit moine au sourire très doux et à la langue si bien pendue que pour rien au monde, sinon un ordre de son supérieur, il n'aurait échangé sa place contre les règles de silence de ses frères. Les jours d'affluence, tels le dimanche de Pâques, il courait d'un groupe à l'autre, accueillait les nouveaux arrivants, les bras écartés, serrait les mains, avait en signe de reconnaissance un petit mot pour chacun, tapotait la tête des enfants, les pressait un peu trop fort peut-être, contre sa robe, dont l'odeur de moisissure incommodait, s'inquiétait des études des plus âgés, et si l'on se plaignait que l'un d'eux ne brillât pas spécialement en latin, eh bien, il n'était pas le préposé aux affaires latines. Et à quoi bon s'acharner à l'étude d'une langue morte que quelques vieillards comme lui étaient seuls à entendre, s'assurant ainsi à bon marché la bienveillance des mauvais élèves, et il joignait les mains au ciel pour se faire pardonner son quasi-blasphème. Ce reclus volontaire s'en voulait d'aimer. Il fallait invoquer l'heure qui tourne pour s'en dépêtrer. Mais quel que fût le plaisir qu'il prit au commerce de ses semblables, sitôt qu'il entendait le ronronnement de la deux chevaux et l'identifiait parmi cent, il abrégeait la conversation en cours et se précipitait à la porte pour saluer son bon monsieur Bourgault. Grand-père lui rendait visite une ou deux fois la semaine. Il en rapportait un succulent fromage de l'abbaye à la croûte crème orangée, pâte jaune paillée, piquée de trous d'épingle, ferme et moelleux, qui doit appartenir au rayon des saveurs oubliées sans qu'on s'en émeuve, faute de comparaison, mais enveler du même coup mille petits satori délicieux. Ensemble, ils se promenaient dans la partie du parc réservée aux visiteurs. Les femmes n'avaient accès qu'à la porterie où étaient exposées les réalisations de la communauté. De loin, on entendait leurs pas crisser sur le gravier des allées. Ils marchaient lentement, s'arrêtaient sur un point plus vif de discussion, puis repartaient. Frêle silhouette du petit moine dans sa rude robe caramel, grand-père à peine plus grand, le corps penché en avant, les mains en contrepoids, croisées derrière le dos. Il parlait à voix basse, aussi respectueux de la solennité du lieu, sous les grands arbres multiséculaires que sous la voûte blanche de la chapelle cistercienne aux piliers de granit rose. Le moine accompagnait ses paroles d'amples effets de manche, ce qui était sa manière d'élever la voix sans bruit. Rituellement, à mi-parcours, si le temps le permettait, il s'asseyait sur la margelle du bassin et contemplait en silence la surface calme de l'eau. Mais cette mesure d'éternité n'était pas du goût du portier. Il aurait tout loisir à se taire, passer l'heure des visites et à sa façon de chasser les gravillons du bout de sa sandale, on le sentait impatient de reprendre la discussion. Il éclata en sanglots, en apprenant la mort de grand-père. Un chagrin immédiat, d'enfant démuni, puis aussi subitement se ressaisit. Il essuya ses larmes avec sa large manche, comme dans un poème d'adieu, et pria qu'on l'excusât. « Comprenez-moi, je perds mon meilleur ami. » Les consolations d'usage, et il arborait de nouveau, en se forçant un peu, son éternel sourire, cette béatitude de façade qui faisait dire aux visiteurs qu'en dépit des règles sévères du cloître, ces gens-là étaient décidément les plus heureux. Manquait-il les femmes ? Au contraire, ils ne connaissaient pas leur bonheur, disaient les messieurs. Bon débarras, concluaient plaisamment les épouses. Et chacun ayant dit ce qu'on attendait de lui, le débat était clos. Frère Eustache s'était étonné de n'avoir pas reçu ces derniers temps la visite de grand-père. Hors vacances, le fait était inhabituel et ne laissait rien présager de bon. Il se rappelait qu'à sa dernière absence, lui et Madame Burgot avaient passé plusieurs semaines chez leur fille cadette après le décès de son mari. 40 ans, n'est-ce pas ? Et 3 jeunes enfants. Il y avait moins de 6 mois. Dieu envoyait de terribles épreuves parfois. On avait bien du mal à le suivre dans les méandres de son amour. À son retour, M. Burgot lui paraissait avoir beaucoup vieilli. Les traits accusés, le visage fermé. Il ne portait plus le même intérêt à leurs discussions, répondait à côté ou ne répondait pas, souvent distrait. Cette mort d'un homme jeune qu'il aimait le tourmentait. Il y revenait sans cesse, comme s'il découvrait sur le tard que le secret de toute vie s'abreuve à cette source noire. Il s'interrogeait beaucoup sur tout ça, et d'un geste évasif, épousant l'orbe du ciel, le petit moine englobait la chapelle, les arbres, les nuages, le bassin. De fil en aiguille, il évoqua leurs interminables conversations. Et machinalement, il se remit en marche, entraînant le groupe silencieux à ses côtés. De quoi parlaient-ils ensemble ? Oh, de tout. De musique, bien sûr, mais pas seulement. Et même très peu, à la vérité. Lui-même n'avait qu'une vague idée de ce qui suivait le grégorien, et s'ils s'entendaient encore sur Bach, ils étaient loin d'être d'accord sur Wagner, par exemple, qu'il trouvait lui assommant, sans parler de tout le tralala des livrets. Non, au vrai, si le terme n'était pas un peu abusif pour des amateurs, il philosophait. M. Burgot avait un esprit curieux, ouvert, trop cartésien sans doute, mais cette réserve était compensée par une extrême attention aux autres. Le monde et ses malheurs étaient le champ favori de leurs débats. Quand ils avaient établi un diagnostic, ils tâchaient d'échafauder des solutions pour un avenir meilleur. Ils avaient même, ils pouvaient bien le dire maintenant, il y avait prescription, adressé, après de nombreux brouillons, une lettre au président de la République en vue de la création de ce qu'ils auraient appelé les voitures-balais de la charité. Une métaphore probablement empruntée au Tour de France qui n'était certainement pas du fait de grand-père, lequel ignora superbement toute sa vie qu'on s'empoignait dans les stades. Le projet prévoyait d'expédier dans les campagnes des camionnettes dont la mission était de dépanner, voire de recueillir les indigents. Cette révélation n'eut pas sur nous l'effet escompté. On savait en fait que grand-père correspondait depuis quelque temps avec les plus hautes autorités de l'État, signe d'un certain vieillissement quand rien n'impressionne plus les vanités terrestres. Un original, traduisait-on, le doigt sur la tempe. Le secrétariat de l'Élysée l'avait assuré en retour que son courrier avait été transmis au service concerné. Frère Eustache s'était laissé convaincre par son ami. Il rougissait rétrospectivement d'une telle audace. « Ah, ce monsieur Burgot !» Le petit moine hochait la tête, souriait de plus belle, levant les yeux au ciel. Il n'avait plus de chagrin. Il voyait grand-père parmi les anges. À mesure qu'il parlait, on assistait à une sorte d'ablation qui consistait à séparer grand-père de la famille et se l'approprier. Ses remarques au détour d'une confidence, comment ? Vous ne le saviez pas ? Ou « Monsieur Burgot ne vous l'avait pas dit ?» le renforçait dans son rôle d'élu de cœur, celui que librement on choisit contre le groupe des figures imposées. Il en résultait que son grand homme, nous l'avions ignoré, que lui seul l'avait reconnu et qu'en conséquence, il lui revenait de monopoliser sa mémoire. En un sens, le petit moine n'avait pas tort. Grand-père avait trouvé auprès de lui une oreille attentive, un écho à ses préoccupations souterraines. Ses visites à l'abbaye avaient servi de prétexte à de salutaires échappées. On savait depuis longtemps que ses silences bourdonnaient de pensées fiévreuses. Consolation de ces derniers jours, frère Eustache avait recueilli ce miel. Grâce lui en fut rendue. Il était juste de lui abandonner cet héritage.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich, elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. Avec elle je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. La pluie, à force de rasade, de tourner des grands ducs, je flotte en eau gambade. La pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean Rouault, Les Chants d'honneur. Chaque été, depuis leur retraite, grand-mère et lui descendaient se reposer dans le midi chez leur fille Lucie. Après un premier et exténuant voyage en deux chevaux parsemé de pannes répétées et d'hôtels décevants, grand-mère avait tranché définitivement en faveur du train, plus rapide et plus sûr. Lui restaient en travers de la gorge les remarques peu amènes des automobilistes sur la lenteur du véhicule et la place qu'il devait occuper à l'hospice ou au cimetière. C'est vrai qu'ils n'étaient plus jeunes. Ils en convenaient encore à la descente du train, déposant sur le quai quatre lourdes valises, grand-père s'épongeant le front sous son panama, grand-mère s'éventant avec le journal mal replié de la veille, fourbu, le visage souligné de fines nervures sombres, contractées sous le panache fuligineux de la locomotive. Et tandis que John, le mari anglais de Lucie, empoigne les valises et les dépose sur un chariot, que le petit groupe s'éloigne du pas méticuleux des vieux parents vers le ciel impeccablement bleu de la sortie, on débat, au vu de leur fatigue, s'il ne serait pas mieux de passer par Lyon, en dépit d'un changement et de 3 heures d'attente, plutôt que par Bordeaux, en ligne directe, avec ses innombrables arrêts. Mais pour grand-père, c'est du pareil au même, qui ne comprend pas qu'on n'ait pas encore dynamité le massif central et coupé tout droit. Elle se promet la prochaine fois d'emporter un petit vaporisateur de poche pour s'humecter le visage et lutter contre la sensation de voyager dans ce qu'il lui faut bien appeler un wagon à bestiaux. Ces odeurs de nourriture. Ah, les œufs durs épluchés sous son nez, qui se mêlent au relent de transpiration. La chaleur ne justifie pas tout. Développement sur le manque général d'hygiène. Certains, non à l'appui, sentent mauvais dès le matin, et l'on sait quelques auréoles sous les aisselles qui ne datent pas du jour même. Mais ce qu'elle déplore par-dessus tout, c'est le sans-gêne. Au début du voyage, leurs voisins donnent tous l'impression de sortir du château. Le château sert pour elle de référence, celui de Riancé, une des plus vieilles familles de France. Élégance, affectée, jambes croisées, mains devant la bouche pour atténuer une petite toux ridicule, civilité exquise pour placer une valise dans le filet, et puis les kilomètres passants où le monde s'étale, se marche dessus, prétend donner à l'autre des leçons de politesse, le jardin à la française vire à la friche. Elle a décidé il y a longtemps qu'on ne la surprendrait jamais avachie, jambes écartées et bouche ouverte. Elle s'en tient là. Et de s'éventer de plus belle comme pour noyer les vestiges de cette nuit de cauchemar dans les douces senteurs de Provence. Mystère John, comme l'appellent les ouvriers arabes du domaine, roule lentement dans les premiers lacets des maures, vitres baissées, l'avant-bras sur la portière. Il sent que les saveurs parfumées des collines, cette cuisine miraculeuse à ciel ouvert, dédommagent déjà le vieux couple des misères du voyage. Senteur massive, entêtante, d'où émerge, quand on les frôle, la sauge, le thym, la marjolaine, le romarin, le basilic, la menthe, odeur de térébenthine, des résineux, aigre du buis, douce amère du figuier, tronc décortiqué des chênes lièges, tortueux des oliviers, reflet d'argent des feuilles de lieuse, vernissé du laurier, terre ocre, schiste noir, le ciel qui vire à l'indigo, au voisinage du vert des pins, avec ce lancinant chant des cigales dont le volume envahit le creux des conversations. Dans les boucles, la voiture retrouve l'ombre fraîche du versant nord dont profitent les hêtres et les chênes avant de replonger à la sortie du village dans l'écrasante lumière du midi. Le vieux couple se laisse porter, s'incline mollement dans les courbes et commente sa gratitude d'un regard vers les sommets. Grand-mère est assise à l'avant, à côté du conducteur. Avoir un gendre anglais, c'est le signe que sa vie n'a pas été conventionnelle. Simplement, elle avait dit à sa fille « Pour moi, ce sera Jeannot ». Elle n'a pas osé affronter le ridicule de mal prononcer un nom étranger et, à son habitude, a choisi l'option radicale. Peut-être Jeannot, John, l'aime-t-il pour cela ? Cette faiblesse d'amour propre chez cette femme énergique. Elle est l'une des rares à dérider ses joues creuses. Elle finit donc le récit de ses tribulations sur une note comique, ce geste impudique des femmes qui l'insupportent pour faire circuler un courant d'air sous leurs dessous. Elle pince sa jupe à deux doigts, la soulève légèrement et l'agite comme pour en décoller la poussière. Succès. La gaieté à présent est suffisamment bien installée pour supporter une répétition. Elle bisse son numéro. Les mauvaises impressions du voyage s'effacent. Quand au bout de l'allée empierrée, marquée à son entrée par deux cyprès, apparaît le crépi rose de la maison. Dans l'ombre du grand acacia, son fauteuil de rotin attend grand-père. Il y passera l'été. Il en prenait possession tôt le matin, après une courte promenade dans les collines au milieu des parfums subtils et de la douceur de l'aube, dans le silence béni qui précède le vacarme des cigales. Un périple à peine plus grand que le tour de la maison, mais attentif, studieux, où chaque plant, chaque papillon recevait son nom, du moins parmi ceux qui l'identifiaient dans les planches du Grand Larousse encyclopédique. Non qu'il s'intéressa à la botanique. Le jardin de la maison de Riancé était un vaste fouillis, mais il avait trouvé ce biais pour communiquer avec ses petits-enfants. Promenant l'un d'eux par la main, il pointait sa canne sur une plante, annonçait simplement « Sarriette » et retombait dans son mutisme rêveur. Par cet emploi de naturaliste, cette transmission de savoir, il lui semblait remplir son rôle d'éducateur. Inutile donc de lui en demander davantage, et surtout pas, comme le lui suggérait Lucie, d'enseigner le solfège aux petits ainsi que quelques rudiments de piano. Il faisait celui qui n'entendait pas. Beethoven sourd au petit Mozart. De retour de promenade, en chemisette blanche et pantalon de toile, il s'installe dans son fauteuil. La matinée se passe à lire le journal, ébaucher les mots croisés que Lucie termine le soir dans son lit, tracer dans la poussière de la pointe de sa canne une géométrie courbe dont il représente le centre. Et toujours de sa canne, une canne souple de bambou, collection de son gendre, à bâtir de petites pyramides de feuilles sèches ou dévier le cours d'une colonne de fourmis. Son panama rabattu sur les yeux à mesure que la luminosité augmente, il regarde devant lui, répond au lointain bonjour d'un homme du domaine en soulevant son chapeau. Personne ne passe sur le chemin qui mène aux vignes et aux chênaies sans lui adresser un petit signe d'allégeance. Cette apparence de vieux chinois impassible sous son arbre paraît exprimer aux yeux de ceux qui s'agitent une grande sagesse. Grand-père est l'axe autour duquel tourne la maisonnée. Il indique dans quelle direction se trouve Mister John, que cherche un ouvrier parce que le tracteur est en panne. Et si John est dans la maison, il se fait le messager, hausse la voix. « Jeannot, on vous demande, le tracteur, toujours !» La fumée de sa cigarette stagne un moment, arrêtée par le bord de son chapeau, l'enveloppe d'un nimbe évanescent. Au milieu de sa rêverie, un cylindre de cendre tombe sur son pantalon de toile. Il le prélève délicatement sur la couverture cartonnée de son agenda qu'il extrait de la pochette de sa chemise. Il y note entre autres choses ses découvertes botaniques et le reverse intact dans le cendrier posé près de lui sur un rondin. Grand-mère, qu'il trouve un peu fort de le voir tirer tant de prestige de ne rien faire, lui apporte un panier de fèves à écosser, dans l'intention qu'il serve au moins à quelque chose. Elle tricoterait, elle lui imposerait de tendre les bras pour enrouler son écheveau. Mais il se montre à certains moments d'une docilité exemplaire. Pourvu qu'on n'exige pas de lui qu'il se lève, se laissant rabrouer par sa fille quand il s'oublie à catapulter un mégot mal éteint dans l'herbe jaunie. Lucie précipitant un pied ravageur sur la cigarette fautive comme Saint-Georges sur la gorge du dragon, lui désignant, comme si cela ne suffisait pas, les souches calcinées du coteau, résidu effroyable du drame férique de l'été passé, quand le mur ronflant des flammes fut stoppé à moins de 200 mètres de la maison, évoquant la nuit illuminée de milieux de brasero, comme si une armée en campagne bivouaquait sur la colline, et les craquements plaintifs du bois, et cette odeur de pain grillé au petit matin, ce monde de la désolation maintenant, et à l'origine peut-être une cigarette comme celle-ci. Et grand-père se repent, comme s'il avait mis le feu au bûcher de Jeanne d'Arc. Voilà, elle l'avait bien dit. Grand-mère qui passe triomphe, qu'il nous ferait tous griller avec ses cigarettes, et elle reprend sa course après le minuscule Lucas, le dernier de Lucie, qui s'obstine à se promener tout nu dans le domaine et s'enfuit en hurlant chaque fois qu'on le force à enfiler le petit slip de bain bleu qu'elle tient à la main. Ils repasseront bientôt dans le même ordre si le minuscule Lucas n'a pas été rattrapé, son sexe bien trop court pour baler, fiché comme une cheville, toujours hurlant, doré de la tête aux pieds. Tenter un moment de se réfugier auprès de grand-père, il incurve au dernier moment sa course en se rappelant qu'il a horreur des noms de papillons et de fleurs, ce qui lui vaut ce refus de savoir une sorte de disgrâce. De fait, grand-père ne prend pas parti dans le drame qu'à l'échelle de ses pleurs, l'enfant signale comme une injustice du monde. Il affecte une indifférence très orientale, en somme, si l'on songe à ces moines zen qui tordent le cou des chatons pour mettre leurs disciples sur la voie du vide parfait. Mais qu'en pense le chaton ? Grand-père abandonne son poste de vigie à l'heure du déjeuner et de la longue sieste qui s'ensuit, au plus fort de l'après-midi, quand l'air excédé vibrillonne comme sous le chalumeau d'un lance-flamme. Il y reviendra pour la cérémonie du thé, concession britannique de grand-mère qui déroge pour l'occasion à son café au lait. tribu au changement de nom qu'elle impose à son gendre. Plus tard, à la fraîche, on dispute devant lui sur le terre-plein balayé avec soin d'interminables parties de boules. On lui emprunte cérémonieusement sa canne dans des litiges pour mesurer les écarts, juge arbitre improvisé dont la seule présence incite les joueurs au bon esprit. À la tombée de la nuit, une nuée de moustiques chasse dessous son arbre notre Saint-Louis des boulistes. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.